Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir à ce 83e congrès HLM, ça se passe à Nantes du 3 au 5 octobre, et nous sommes le 3 octobre, premier jour donc, on est ravi d'être sur le stand du gouvernement avec Radio Territoria pour parler d'un sujet, les objectifs du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Effectivement, de le logement, on va en parler évidemment, encore faudrait-il qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Et bien sûr qu'il soit de qualité puisqu'on est en plein dans cette transition écologique. Nos experts du jour, on est ravis d'accueillir Jean-Luc Gors. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Aquitanis, bienvenue à vous.
Oui.
À vos côtés, Lola Davidson. Bonjour Lola.
Bonjour.
Vous êtes directrice du programme justement dont on va parler, engagé pour la qualité du logement de demain. Et alors il y a plein d'acronymes pour lesquels vous travaillez, c'est le GIP EPO qui est en charge de ce programme. Racontez-nous ce que... Alors groupement d'intérêt public et ensuite...
L'Europe des projets architecturaux et urbains, c'est un groupement d'intérêt public qui, pour le compte du gouvernement, opère des programmes comme engagés pour la qualité du logement de demain. C'est un programme interministériel sous tutelle du ministère en charge du logement et du ministère de la Culture.
Voilà, donc on s'y réfère en tant que EPO au cours de cette émission. Enfin, Imed Robanet est avec nous. Bonjour Imed.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du COL, et le COL, c'est le comité ouvrier du logement. Tiens, justement, un petit tour de table, on va commencer par vous. Ce comité du logement, il est donc spécialiste de l'accession sociale à la propriété et dans l'habitat participatif. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails, justement, sur ce COL ?
Le COL, c'est effectivement une aventure humaine exceptionnelle qui a eu lieu il y a 72 ans. Le COL est né du mouvement des castors de Saint-Amand à Bayonne, donc un mouvement ouvrier qui a été encadré par des syndicalistes et qui a créé une coopérative. Le COL est une coopérative d'intérêt collectif, voilà, donc spécialisée dans l'accession sociale à la propriété. On a également un rôle de bailleur, on produit quelques logements locatifs, voilà, et très engagé dans l'habitat participatif, le bail réel solidaire, on en parlera tout à l'heure.
Pour répondre aux enjeux effectivement de la zone Pays Basque, Landes, Béarn et même un petit peu plus loin jusqu'à Toulouse.
Absolument, nous avons une agence à Pau, une agence à... le siège social est anglais, une agence à Pau, une agence à Bordeaux et une agence à Toulouse. Pour travailler sur le Grand Sud-Ouest.
Grand Sud-Ouest, effectivement, et puis on reste vraiment dans le Grand Ouest, puisque Jean-Luc Gors, vous êtes directeur général d'Aquitanis. Un mot, justement, sur cette structure également.
Alors, Aquitanis est un office public de l'habitat, celui de Bordeaux Métropole. Nous détenons aujourd'hui 21 000 logements, en moyenne, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, mais représentés prioritairement sur la métropole de Bordeaux à 90%. Voilà, donc une entreprise... plus que centenaire, puisque nous avons fêté le centenaire il y a déjà 3 ans. Donc des très vieilles sociétés qui ont, j'irais, passé le temps sur...
On va dire anciennes et pleines d'expérience.
Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Non, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on est aujourd'hui dans une nouvelle crise, on va dire multifactorielle du logement. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est vrai que c'est peut-être sans précédent, mais comme vous nous le disiez, effectivement, au bout de 102 ans, on a un petit peu d'expérience, donc on devrait réussir à passer celle-ci aussi. D'autant que vous êtes, le COL et Aquitanis, plusieurs fois chacun lauréat du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Avant de voir justement sur quel projet vous avez été lauréat, Lola Davidson, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce programme et de ses trophées, enfin en tout cas c'est le différent lauréat. Comment ça se présente ?
Oui, alors le programme engagé pour la qualité du logement de demain est donc beaucoup plus jeune que ces deux structures, parce que c'est un programme qui a été lancé fin 2021, un peu après les réflexions post-Covid sur la qualité du logement et la sortie de deux rapports, un premier sur le logement social par Pierre-René Lemas et un second sur la qualité du logement globalement par Laurent Girometti et François Leclerc. Et à l'issue de ces rapports, il a été souligné une baisse dans la production de la qualité du logement dans ces dernières décennies. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, au travers des ministères en charge du logement et du ministère de la Culture, ont lancé ce programme.
D'accord.
Qui s'est fait sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt, auquel des porteurs de projets, donc des groupements maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, collectivités, répondaient pour proposer des opérations avec des ambitions importantes en matière de qualité de logement, mais aussi de processus constructifs, donc qui s'inscrivent vraiment pleinement dans la transition écologique et avec la notion de, d'abordabilité, de maîtrise des coûts.
Bien sûr. Comment on explique justement cette dépréciation, j'allais dire, ou du moins cette baisse de qualité, puisque là, vous mettez l'accent justement sur la qualité. Qu'est-ce qu'on fait ? On a construit plus petit, plus sombre, moins aéré, enfin tout ce que... Parce qu'on a quand même, il faut le dire, redécouvert nos logements les uns et les autres à l'occasion de la crise sanitaire. On n'a jamais autant vécu chez nous, et certains se sont dit, mais je ne suis pas si bien que ça.
Exactement, mais c'est tout ce que vous avez dit en même temps, c'est multifactoriel, c'est... une industrialisation qui a provoqué une perte de volume, de moins de logements traversants, donc moins de ventilation naturelle, moins d'espace extérieur, et c'est ça qui a vraiment été souligné lors du Covid sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui n'avaient pas d'espace privatif extérieur ou partagé, des pertes de surface. Et peut-être des réflexions, parce que aussi des objets portés vers l'investissement plus que vers l'accédant et l'habitant, qui ont fait perdre aussi une réflexion sur la conception à partir des usages.
D'accord.
Donc c'est vraiment dans le cadre du programme engagé pour la qualité du logement de demain, les lauréats, donc 97 lauréats sur l'ensemble du territoire français, ils ont vraiment été sélectionnés parce qu'il y avait une approche, le premier point était... On se base sur les usages pour concevoir les logements et on imagine aussi l'habitant, mais c'est aussi au travers de la participation des habitants, de la co-conception. Il y a plein de manières aussi de réfléchir à l'usage dans le logement.
Bien sûr.
Et donc c'était le premier axe principal qui a permis de sélectionner ces lauréats du programme.
Donc, nos deux invités, Jean-Luc Gors et Imed Romana, sont bien sûr lauréats sur plusieurs projets, hein, d'ailleurs. Jean-Luc, on commence avec vous. Déjà, quand vous avez entendu parler de ce programme, est-ce que vous vous êtes dit « c'est pour nous » j'ai l'impression que vous allez me dire « mais nous, on faisait déjà ça, c'était dans notre ADN ».
Ah, vous m'avez sorti les mots de la bouche. Non, c'est vrai qu'à Quitalis, on a toujours été assez innovant, c'est vrai. Et pour le coup, quand on a vu cet appel à manifestation d'intérêt, ça nous a paru tout à fait logique de pouvoir postuler et de pouvoir présenter un certain nombre de projets. Notamment parce que, en plus, comme Lola l'a dit, je pense qu'en effet, on a perdu pendant les 20 dernières années beaucoup de qualité dans le logement. La surface s'est réduite, vous l'avez évoqué, le volume du logement aussi,
oui.
et puis la qualité des matériaux aussi et la mise en œuvre aussi. Et donc on se rendait compte, hein, je pense collectivement, qu'on avait de plus en plus de malfaçons et à la livraison.
De réserve.
Voilà, de réserve. Et puis de dommages ouvrages aussi, hein, après la livraison, qui, bien sûr, j'allais dire... nuisent à la vie des habitants et bien sûr demandent aussi à nos équipes d'être très présentes après la réception. Or, c'est là où normalement on devrait jouir d'un logement le mieux possible. Et c'est vrai que pour le coup, cet appel à manifestation d'intérêt était pour nous une aubaine pour pouvoir aussi aller pousser les curseurs un peu plus loin sur un certain nombre de dimensions. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous en tout cas, sur les quatre projets lauréats pour Aquitanis.
Alors EcoShop, donc c'est à Bordeaux, hein, projet qui revisite la maison individuelle dans les délaissés fonciers en développant le réemploi, voilà le titre. On rappelle, EcoShop c'est bien trouvé parce que c'est vrai qu'il y a ces échoppes à Bordeaux, hein, c'est des maisons d'un étage maximum,
ouais,
même pas, hein, c'est
plein de pieds,
voilà, en belle pierre, parfois avec un petit jardin pour les plus chanceux. Et donc vous avez revisité ces maisons. Oui. EcoShop, parlez-nous de ce projet.
Alors EcoShop, c'est comment est-ce qu'on pouvait revisiter le pavillonnaire à l'ère d'aujourd'hui, en se disant qu'il fallait qu'on maîtrise le foncier et en même temps qu'on redonne, cette qualité architecturale de l'échoppe bordelaise avec, comme vous le disiez, une façade un peu noble. Et en même temps, derrière, des espaces communs.
Je crois qu'on n'a pas le droit d'y toucher, d'ailleurs, la façade. Elles sont plus ou moins classées.
Alors, en général, c'est vrai que, pour le coup, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, en effet, sur les façades bordelaises. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir optimiser au maximum ce qu'on peut appeler les dents creuses, c'est-à-dire le foncier délaissé qu'on avait sur notre patrimoine pour faire 2, 3, 4 logements individuels. Et c'est ce qu'on a appelé un programme d'éco-shop. Et donc l'idée aussi, c'est d'aller faire plusieurs logements qui puissent mutualiser aussi, qui peuvent mutualiser, pardon, un certain nombre d'espaces communs. Donc il y a des espaces privatifs extérieurs et il y a des espaces communs extérieurs propres, par exemple, à deux pavillons qui sont accolés.
D'accord.
Et donc là, c'est de se dire comment est-ce qu'on revisite aussi la question de l'en commun et de l'intimité. Et pour nous, c'est toute la question, elle est là. Elle était de réfléchir sur, du point de vue architectural et donc du point de vue de l'usage des locataires, des futurs locataires, comment ils allaient s'approprier des espaces communs avec des usages très différents et des espaces privés, bien sûr, pour pouvoir avoir l'intimité que chacun pense avoir dans son logement.
Voilà, premier donc prix, en tout cas lauréat, pour Aquitanis, EcoShop, Métropole de Bordeaux. Tiens, on reste à Bordeaux. Imed Robana, vous avez travaillé alors sur plusieurs choses, mais justement en Cité de la Gare, projet livré en 2017, des logements individuels et intermédiaires, principalement en accession sociale. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot ? Là, on reste à Bordeaux, justement.
On reste à Bordeaux. Alors, c'était une consultation de la Fabrique Métropolitaine, qui est l'aménageur de la métropole. Pour nous, l'enjeu, c'était d'arriver à trouver des formes urbaines qui allient un peu, qui trouvent un bon compromis entre l'acceptabilité et la densité, en fait. Hein. Vous savez que la densité, aujourd'hui, devient une nécessité, hein, compte tenu de l'évolution, et notamment de la problématique du ZAN. Mais déjà, on a souhaité offrir à nos accédants à la propriété, parce que c'est un projet en accession sociale à la propriété, un rapport qualité-prix absolument imbattable, puisqu'on on a des logements avec des terrasses qui représentent pratiquement la surface du logement.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on accepte d'aller vers, non pas la maison où on fait le tour de la maison, mais des logements, puisqu'on a une trentaine de logements, pour lesquels on a toutes les qualités d'une maison, mais dans un collectif.
Avec un grand extérieur.
Voilà, un grand extérieur. Okay. Et à des prix, encore une fois, c'est un programme en PSLA. À l'époque, on ne faisait pas encore du BRS. On est sorti à 2300 euros du mètre carré habitable, pour lequel, nous, c'est toujours le bon compromis entre l'accessibilité sociale, la qualité, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait un métier difficile et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de pousser la.
Mais 2300 euros, on rappelle quand même qu'on est bien en dessous du tarif, bien évidemment, du marché, alors, surtout dans la métropole
de Bordeaux. Il se trouve qu'on a livré il y a 4 ans, donc les coûts de construction n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Mais à l'époque, déjà, c'était un rapport qui a été pris vraiment exceptionnel.
On peut continuer à sortir ce genre de tarif aujourd'hui, ou même aller avec l'inflation, peut-être plus 10%, au-dessous de 2500, c'est impossible.
Non, aujourd'hui, on a pris pratiquement 40% en 4 ans de hausse de coûts de construction. Malheureusement, nous, on le déplore beaucoup, parce qu'encore une fois, notre public, c'est vraiment des personnes qui gagnent entre un SMIC et 3 SMIC. Et aujourd'hui, on est en train de changer de clientèle, puisqu'on les coûts de construction deviennent tellement élevés que les prix de vente, du coup, le sont également. Et voilà.
Ça va interdire, donc, de facto, une certaine population, vous le disiez, les plus modestes, à cette accession à la propriété.
Malheureusement, effectivement, alors, on cherche toujours, hein, à rester quand même, malgré tout, sur cette population. Et du coup, c'est là où on a mis en place le bail réel solidaire, qui nous a permis, malgré tout, de pouvoir, pendant un certain temps, garder la même clientèle, puisque le foncier n'étant plus un vrai problème, du coup, on solvabilise beaucoup plus la.
Voilà, dans le BRS, le bail réel solidaire, on détache effectivement la partie foncier qui va être payée en loyer, mais avec des moyens extrêmement modestes, du bâti. Lola Davidson, tiens, justement, cette question de prix, elle est intéressante. Quand on dit engagé pour la qualité du logement de demain, est-ce que le rapport qualité-prix est pris en compte également ? Parce qu'on peut faire évidemment de la très belle qualité, mais à quel prix ?
Ah bah, c'est un des enjeux majeurs, effectivement, de ce programme, parce que ce programme, il a pour ambition. Certes, il n'y a que 97 lauréats, ce qui représente 9000 logements qui seront produits, mais il a pour objet vraiment de pouvoir, au travers de ces opérations et de ces opérateurs, d'observer les évolutions des modes de faire et justement cette articulation entre qualité, quantité, parce qu'il ne faut absolument pas dissocier la qualité de la quantité, et l'abordabilité. Donc le sujet de la maîtrise des coûts est absolument fondamental. Donc il y a aussi, là, sur l'augmentation des coûts de construction, il y a la conjoncture actuelle qui pose énormément de questions, et pas uniquement, bien sûr, aux 97 projets lauréats, mais ça, à l'ensemble de la production actuellement. Mais donc du coup, l'objectif du programme, il est aussi de questionner la structuration des filières pour pouvoir imaginer des baisses de coûts, des solutions en termes de processus de construction. On le voit chez Aquitanis avec un gros travail sur le réemploi qui aujourd'hui n'absorbe pas complètement les surcoûts, mais demain, en passant à l'échelle certainement. Donc c'est aussi au travers...
Le réemploi, c'est le réemploi des matériaux notamment.
Oui.
Vous y arrivez aujourd'hui, Jean-Luc, la filiale s'organise parce que le passage à l'échelle, c'est important. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des opérations, c'est presque un acte de foi parce que la filière n'est pas encore structurée, mais c'est en cours.
Ben, c'est comme pour toute innovation, hein. Il faut à un moment donné qu'on puisse passer à l'acte. Certes, c'est beaucoup d'investissement au départ, mais après, on espère en tout cas que ça devienne un modèle et que le modèle, trouve son économie. Sur le réemploi, on commence juste à se structurer. Hein. Donc pour nous, à Aquitanis, on est en train de mettre en place aussi une base de réemploi. On est en train de s'organiser autour de ces questions-là pour commencer à repérer les matériaux déconstruits, les stocker et les réemployer après dans les futures opérations. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on commence à repérer là, et notamment sur un certain nombre de ces quatre opérations lauréates.
Tiens, on part à Saint-Laurent-du-Gard.
Du bois.
Une petite coquille dans le... on est toujours, on reste en Gironde effectivement. Projet d'alternative aux pavillonnaires en milieu rural. Alors on le sait, hein, et d'ailleurs ça va défrayer la chronique, à l'époque les Français sont attachés à la petite maison individuelle, mais on peut et il faut montrer ce nouveau modèle qui est voilà, du petit habitat, voilà, vous allez nous le décrire, en région, en zone rurale.
Oui, parce que on voit bien qu'il y a un attrait, vous l'avez dit tout à l'heure, le Covid a démontré que beaucoup de résidents français souhaitaient revenir à des valeurs un peu simples et puis d'être un peu en milieu rural. Et donc on a beaucoup de petites localités en Gironde qui aujourd'hui jusqu'à présent dépérissaient et qui retrouvent un certain attrait, notamment de personnes vivant en urbain depuis plusieurs années qui se disent tiens, pourquoi je ne m'expatrierais pas à 20 ou 30 km de l'agglomération pour pouvoir vivre mieux, voilà, avoir mes enfants dans un cadre beaucoup plus verdoyant. Et on travaille comme ça avec ces communes qui manquent cruellement d'ingénierie. Oui. Et nous, ça nous permet aussi d'apporter l'ingénierie à ces petites localités, des maires qui sont souvent dépourvues mais pleines de bonnes intentions.
Et donc souvent, l'ingénierie, c'est quoi? Juste pour nos auditeurs, pour bien spécifier, c'est quoi? C'est aujourd'hui, le maire, il gère juste les permis de construire, mais il n'a pas forcément la capacité de déployer, par exemple, une zone d'aménagement ou choses plus complexes.
Ou de réfléchir à son tissu urbain, comment il est organisé, comment il peut le remodeler et comment il peut justement intervenir sur des petits fonciers. Et l'idée, c'est d'éviter aussi que dans le milieu rural, on consomme trop de fonciers. On l'a vu, souvent, il se développe des fonciers pour construire une maison de 2000 m². Aujourd'hui, c'est un peu impensable. C'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas densifier aussi ces petits bouts en, calquant aussi l'architecture vernaculaire du lieu, de manière à faire ressortir un certain nombre d'atouts locaux et à réinterpréter le petit collectif en milieu rural, de manière à avoir un habitat qui corresponde à des personnes âgées, souvent en plus.
Oui. Qui n'ont pas besoin d'une grande maison. C'est voilà. Pas gentil parce que c'est peut-être la maison familiale, mais à un moment même, elle devient trop grande, cette
exactement.
Maison, quand les enfants sont partis.
Qui se retrouvent dans un habitat beaucoup trop grand, pas adapté, souvent. Oui. Et puis aussi pour des jeunes qui veulent s'installer en milieu rural.
Et on peut ajouter comme ça également des services. Lola.
Oui, c'est ce que je trouve très intéressant dans les deux exemples qui viennent d'être montrés et qu'on retrouve dans le programme. Donc, sur 97 lauréats, on a évidemment une majorité de projets qui se retrouvent dans des espaces métropolitains, parce que c'est aussi là où il y a plus de demandes, mais une partie également en territoire périurbain et rural, et avec des propositions qui sont adaptées à ces contextes territoriaux et qui répondent justement aussi d'un côté à... aux difficultés que peuvent avoir ces communes à porter eux-mêmes des projets, donc avec des opérateurs qui viennent et qui les aident et qui apportent de l'ingénierie pour trouver des solutions en termes d'organisation de l'espace et qui réfléchissent collectivement à cette sobriété foncière indispensable
bien
aujourd'hui
sûr.
Et qui questionnent la forme d'habitat. Et c'est ça aussi qu'on voit aussi dans le projet Cité de la Gare, c'est que entre dans l'imaginaire collectif, Il y a le grand collectif et la maison individuelle entourée de son jardin.
Et oui, je caricature, il y a la tour ou la barre d'immeuble, voilà, où personne n'a envie d'aller. Et c'est vrai que souvent, c'est cette... quand on dit HLM, tout de suite, on a cette idée un peu paupériste voilà, de la barre où il ne fait pas bon vivre. Mais il y a aussi de l'habitat. Et je dois souligner également ce qu'on découvre tous les jours sur l'antenne de Radio Territoriale, que le monde du HLM, il est très innovant et il est plutôt à la pointe, parce qu'on peut se permettre d'avoir du temps long et peut-être de penser d'abord à ceux qui vont habiter.
Absolument. Non, mais là, clairement, les bailleurs sociaux portent énormément d'innovations, que ce soit de l'innovation en montage financier, que ce soit de l'innovation sociale sur les communs, le partage d'espace, de réfléchir à comment vivre autrement aujourd'hui, et sur les formes. Donc, entre la barre, comme vous dites, et la maison individuelle, il y a
panoplie
exactement de formes architecturales qui permettent de discuter différemment de la densité.
Bien sûr.
Et de proposer des solutions aux habitants qui sont assez, assez différentes et très qualitatives.
Avec des modes de construire différents, donc on a vu tout à l'heure l'économie voilà, du réemploi. Je voudrais parler d'économie circulaire. Alors on se déplace un petit peu, Imed Romana. Je rappelle que vous êtes directeur général du COL, le Comité ouvrier du logement. Et là, vous avez à Toulouse, créer les herbes folles. Là, il s'agit d'un programme de 64 logements et vous utilisez l'économie circulaire.
Alors, en fait, c'est effectivement un programme qui nous a permis de tirer profit de toute l'expertise, de l'expérience qu'on a dans l'habitat participatif à l'échelle d'une résidence pour l'élargir à l'échelle d'un quartier. En fait, c'est un projet pour lequel nous avons associé le quartier, et on a travaillé avec les associations de quartier pour bâtir ce projet autour de trois enjeux, trois axes. Hein. On a un pôle de l'économie sociale et solidaire autour de l'économie circulaire. Sur place, on a répondu, c'est une consultation de Toulouse Métropole, on a répondu avec une structure locale qui s'appelait Les Cycles, qui fait de l'insertion professionnelle par le recyclage des vélos. Nous avons également dans le projet un pôle culturel, avec une structure qui s'appelle la forêt électrique, des jeunes très talentueux qui ont fait le tour de l'Europe sur la notion de cinéma de quartier avec la production audiovisuelle, etc. Et puis on fait des logements, un tiers en locatif social, un tiers en BRS, un tiers en libre, et tout ça en participatif. En fait, l'idée, c'est, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une nouvelle manière de produire de l'aménagement, c'est de travailler sur l'association des citoyens, bien que sûr, ce soit les riverains, que ce soit les futurs habitants, etc. Demain, les opérations, pour qu'elles soient acceptées, pour qu'on puisse faire accepter notamment la densité, il faut absolument faire les projets avec les futurs habitants, voire les habitants du quartier.
On a même l'impression que sans concertation, aujourd'hui, ça ne sort plus, entre guillemets, où il va y avoir tellement d'opposition, de recours divers, que ça va être extrêmement compliqué. Donc, en tout cas, le maître mot, concertation,
association des habitants, et créer des lieux de vie, non pas des projets immobiliers en tant que tels.
On parle également des freins, justement, qui existent encore, hein, que vous avez sûrement observé pour ce logement. Alors, on va dire toujours et encore la ressource, en tout cas des ressources, notamment financières. Jean-Luc Gore, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équation n'est pas simple, hein, avec un mode de financement qui s'est tendu, évidemment, avec des taux qui remontent. Alors ça, c'est pour ceux qui souhaitent acquérir, mais c'est même pour les organismes, effectivement, du logement public, et c'est compliqué puisque la ressource est plus chère.
Oui, en effet, on a de plus en plus de difficultés à équilibrer nos opérations, du fait, en tout cas, de l'inflation des coûts sur, le foncier, mais aussi sur les coûts de construction. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un des freins majeurs aujourd'hui que nous rencontrons dans la filière, hein, de production, c'est-à-dire toute confondue, hein, que ce soit, sur du traditionnel, sur l'innovation. Après, sur les projets proprement, à proprement parler, les projets lauréats, on a rencontré différents, freins. Plutôt des freins souvent, très administratifs, que ce soit sur la partie assurantielle ou même la partie juridique.
Oui.
Ça, c'est souvent parce que quand on innove, en effet, on sort un peu des sentiers battus. Et donc, il faut faire le pas de côté qui nous permet d'aller chercher autre chose. Et quand on va chercher autre chose, en général, c'est pas écrit, c'est pas... Voilà. Et
donc, vous n'êtes pas dans les clous.
Voilà, exactement. Et donc, pour le coup, il faut innover, il faut essayer à chaque fois d'innover, d'inventer, d'aller chercher des permis d'innover. Parce que, quelque part, on n'a pas encore testé un certain nombre d'éléments. Et on le voit d'ailleurs, nous, sur un de nos programmes, avec le SDIS 33, qui, j'allais dire, est un peu réticent à concevoir que nous puissions habiter ou du moins se servir des terrasses, des toitures terrasses.
D'accord.
Et nous, on aimerait bien donner un usage à ces toitures terrasses, parce que c'est redonner aussi aux habitants une valeur d'usage qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà un exemple très, très facile à voir. En tout cas, là, pour le coup, on espère que le ministère va nous aider sur cette question-là.
Bah, écoutez, vous êtes sur le stand du gouvernement. J'espère que la parole va porter. A contrario, est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi ces innovations, que voilà, c'est validé, tamponné, elles sont réplicables ? Ce que vous produisez, finalement, vous dites, mais ça, on l'a fait, ça fonctionne, ça marche, on peut le faire à Bordeaux, à Toulouse, demain à Nancy ou à Lille.
Bien sûr, on a un réseau très, très grand dans le logement social pour pouvoir, d'une part, innover et après répliquer. On a la capacité à nous embarquer avec d'autres collègues des innovations de ci, de là. Et c'est ce que justement, cet appel à manifestation d'intérêt cherche à aller chercher, à acquérir. C'est-à-dire, quelles sont ces innovations qui, à un moment donné, vont défricher un certain nombre d'actions qui permettront à d'autres d'y aller plus facilement.
Imed, pour vous aussi, c'est important de défricher le terrain un petit peu, j'ai envie de dire, d'innover sans cesse, parce que c'est vrai que pour le privé, c'est encore plus compliqué, on a l'impression. Là, vous êtes au cœur du système pour faire avancer aussi les choses, malgré, on l'a entendu, des freins administratifs, juridiques, etc.
Enfin, dans l'ADN du col, et ça a toujours été le cas, en fait, on a toujours défriché. Jean-Luc a dit effectivement qu'on est obligé des fois de se mettre à la limite du réglementaire, voire même de faire évoluer un peu la réglementation. Par contre, ce qui est très très important pour nous, c'est que ça donne une suite, en fait. À chaque fois, en fait, le cycle de l'immobilier est tellement long. Si on attend de 5 ans pour tirer des conclusions de cette expérience, on ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, nous, on fait en marchant et on essaie d'adapter au fur et à mesure. Et c'est très, très important d'arriver à faire des projets qui soient reproductibles. Sans ça, bon, ça peut être intéressant de faire des expériences, mais
ça reste une expérimentation. On dit, tiens, c'est ici.
Ce qui est très important pour nous, en tout cas, c'est que ce soit reproductible.
Voilà, et qu'on puisse passer à l'échelle, pardon. Lola Davidson, 97 projets lauréats. Appel à projet pour l'an prochain, comment ça va se passer?
Alors déjà là, juste peut-être pour rappeler, sur ces 97 projets, il y a 20 projets qui font partie de l'incubateur du programme, dont un chez Aquitanis et un au col, qui sont donc accompagnés financièrement, notamment grâce au soutien de la Banque des Territoires, pour pouvoir justement aller plus loin dans certaines études, un accompagnement sur les freins juridiques et assurantiels côté réemploi par exemple, sur l'urbanisme et la conception d'un bâtiment adapté et au travers de tous les facteurs santé pour l'opération de Guinemer à Pau. Et donc grâce à ces 20 projets qui ont vraiment pour effet d'être démonstrateurs, justement pour qu'on puisse aller regarder ce qui est réplicable, ce qui ne l'est pas, quels sont des freins que l'on peut lever, y compris parce que dans l'objectif du programme, c'est bien de pouvoir faire remonter l'ensemble de ces freins et pouvoir, s'il le faut, faire évoluer la règle. On rentre aujourd'hui dans une phase de capitalisation, justement, parce qu'on ne va pas attendre que les 97 projets soient livrés pour pouvoir commencer le retour
d'expérience. On ne va pas attendre 5 ans, comme disait Imed.
Exactement, on avance tous collectivement en marchant pour voir ce qui aujourd'hui déjà peut être, on va dire, une brique de réplicabilité, et puis petit à petit en ajouter d'autres pour que les porteurs de projets lauréats puissent continuer à pérenniser en fait les évolutions et les innovations qu'ils ont portées au travers de ces projets lauréats, mais aussi les autres. L'objectif étant bien de pouvoir diffuser auprès de l'ensemble des acteurs de la chaîne de production du logement et pas uniquement dans le cercle, on va dire, des happy few lauréats du programme.
Bien sûr.
Donc voilà aujourd'hui l'actualité, on va dire, chaude du programme. C'est vraiment la capitalisation, la diffusion de ces premiers retours d'expérience.
Avant de lancer finalement...
Avant de lancer éventuellement une deuxième
consultation, une deuxième appel à manifestation d'intérêt. Voilà, vous avez parlé du programme à Pau, effectivement, résidence Guinemer. C'est la réhabilitation construction en œuvre en quart de ville de 20 logements en accession sociale à propriété. Hein, c'est ça, Imen.
C'est ça. Et là, on a choisi effectivement le thème de la santé pour ce projet-là. Là aussi, on souhaite avancer et pour irriguer nos futurs projets, pour savoir à chaque fois jusqu'où on peut aller dans le curseur, parce qu'il y a la santé physique, il y a la santé mentale, il y a la santé sociologique, en fait, hein, dans ce type de projet. Nous avons nous sommes accompagnés par des sociologues, nous sommes accompagnés par un acousticien pour la qualité justement du logement au niveau de l'acoustique, oui, etc. Et donc pour nous, c'est important de voir un peu l'ensemble de ces curseurs pour savoir qu'est-ce qui est justement reproductible et jusqu'où on peut aller dans un contexte économique qui est celui d'aujourd'hui, et n'oubliant pas pour qui on construit, puisque encore une fois, on fait l'accession sociale à la propriété.
Oui, et au final, c'est pour habiter. Jean-Luc, vous voulez rajouter un petit mot ?
Non, je pense qu'on a encore, de beaux jours devant nous dans l'innovation. C'est vrai qu'on voit qu'on a tenté un certain nombre d'expériences, mais qui font aussi bouger les lignes sur nos métiers intérieurs. Parce qu'on est quand même, comme je le disais tout à l'heure, des vieilles organisations avec des métiers qui se sont étoffés au gré du temps. Et là, il faut les réquestionner très en profondeur, notamment parce qu'on est dans de véritables transitions aujourd'hui qui font muter aussi nos métiers internes. Et ça permet aussi, cet appel à manifestation d'intérêt, ces innovations, de pouvoir réinterpréter nos métiers.
Imed Romana, avant la conclusion, dites-nous.
Moi, je profite de toutes les tribunes qui me sont offertes pour tirer l'attention sur un sujet qui pour nous est extrêmement important et qu'on pousse actuellement, qui est les matériaux bas carbone et les matériaux biosourcés. Aujourd'hui, tout ce qui est économie d'énergie, pour nous, c'est très très important parce que nos locataires ou nos accédants, lorsqu'on investit un euro, c'est un euro qui est récupéré. Actuellement, nous avons développé un projet avec une structure de Tarnot qui s'appelle Habitat Éco-Action,
oui,
qui fait de la formation professionnelle dans l'éco-construction. Nous avons emmené avec nous quelques collègues bailleurs, Excel Habitat qui est l'office des Landes et HSA qui est l'office de Bayonne. L'idée étant de dire, nous sommes, nous bailleurs, prêts à aller vers l'éco-construction pourvu qu'on ait des prix qui soient compatibles. Sauf que le temps que ces filières se mettent en place, il va y avoir des surcoûts.
Oui.
Pendant 4-5 ans, il va y avoir des surcoûts. Et je trouve anormal, je trouve pas très cohérent que on ne puisse pas accompagner ce type de projet, parce que ça va se traduire pour nous par exclure toute une frange de la population, encore plus. Aujourd'hui, les coûts de construction déjà excluent un petit peu, mais le fait qu'on construise bas carbone finalement et qu'on développe ces filières va exclure une partie de la population. Donc, j'essaye de porter.
Donc, vous tirez la sonnette d'alarme, on ne va pas dire que c'est un coup de gueule, mais c'est
non, c'est pas ça.
L'idée, c'est quoi ? Ça serait de subventionner ou d'aider ces
l'idée, je milite moi personnellement. Alors, d'accord. Du coup, c'est vraiment Imed Romana, directeur du COL, sur une prime bas carbone.
Prime bas carbone.
Bas carbone de 20 000 euros par logement. Si on fait 5 000 logements à accession sociale, on va booster les filières locales. Je pense qu'il ne faut absolument pas. On est en train de retarder plein de choses.
Oui.
Or, il y a cette urgence. Et je pense que c'est un enjeu national. Il faudrait accompagner ces projets-là.
D'autant que la crise de l'énergie n'est pas terminée. Et tout ce qui est investi aujourd'hui pour effectivement bas carbone ou baisser la consommation énergétique, ça va se retrouver évidemment dans le temps. Bon, eh bien c'est fait, on en sait un petit peu plus en tout cas sur ce programme engagé pour la qualité du logement de demain. On a compris que vous vous mobilisez chez Aquitanis et au COL pour effectivement pallier peut-être à une baisse de la qualité de la construction. En tout cas, on a des beaux exemples en Aquitaine et un petit peu plus loin en Occitanie également. En tout cas, un grand merci à nos experts du jour. Jean-Luc Gorce, directeur général d'Aquitanis. Lola Davidson, directeur du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Imed Romana, le directeur général du COL, c'est le comité ouvrier du logement. Très bon congrès HLM et à très bientôt.
Merci.
Radio Territoria.
Merci.
Et vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.